l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
Chers amis, après ma chronique qui traitera de la charité, j'aurai le plaisir de recevoir à nouveau le père Jean Guette et de savourer avec vous quelques beaux chants liturgiques de la divine liturgie. Nous avons parlé, les fois dernières, de la foi et de la charité qui font partie des deux premières vertus théologales. Il me semble que on comprend la profondeur de ces vertus quand on voit l'extraordinaire originalité de celle-ci, c'est-à-dire derrière la foi. Il n'y a pas simplement le fait de croire, mais le fait de s'élever à un niveau supérieur qui permet d'accéder à la plus haute connaissance qui soit. Et c'est ce qui permet de comprendre le sens profond de la foi comme savoir absolu. Avec l'espérance, nous avons affaire au oui. Avec la charité, nous avons affaire à la finesse. C'est Pascal qui nous parle de la finesse quand il explique que la véritable morale n'est pas une affaire de règles, mais une affaire de finesse, c'est-à-dire de cœur. Une chose est une règle et une autre est d'être réglée. La véritable morale consiste non pas à édicter des règles pour les autres, mais à se régler soi-même. Et comment se règle-t-on ? On se règle en rentrant en soi et en écoutant son cœur. Et écouter son cœur veut dire sentir si l'on sent. Quand on sent vraiment, on sent que l'on sent. Et dans cette sensation réfléchie, nous comprenons ici ce que veut dire la pensée et derrière elle la conscience. Le cœur, la pensée, la conscience, c'est ce qui se passe quand on vit pleinement ce que l'on vit, en réfléchissant ce que l'on vit et en étant instruit de l'intérieur de ce que l'on vit par ce que l'on vit. Là, nous avons affaire à une véritable expérience de la règle et derrière l'expérience de la règle, nous sommes dans la finesse. Pourquoi ? Parce que cela bouge tout le temps. Cela change à chaque moment. Il faut sans arrêt être vigilant pour être dans le cœur et dans la finesse. La finesse, le cœur, font penser au père Neptique. Tradition spirituelle fondée sur la philokalie, l'amour de la beauté, les recueils de la vie spirituelle ascétique orthodoxe et qui cultive la retenue ou bien encore l'attention. La retenue, l'attention, le cœur, le fait de faire sans arrêt attention à ce que l'on dit pour vraiment sentir ce que l'on sent et ainsi aimer et penser, c'est ce que signifie le cœur, c'est ce que signifie la finesse. Cela nous éclaire sur la charité et le lien qu'il peut y avoir avec la finesse. Pascal dit quelque chose de tout à fait admirable à propos de la charité. Il voit dans la charité, l'ordre qui embrasse toute chose. Puisque s'il y a l'ordre des corps, s'il y a l'ordre des esprits, il y a l'ordre de la charité. L'ordre des corps, c'est celui qui se règle sur la machine et qui renvoie à la réalité matérielle qui est mathématiquement structurée. L'ordre des esprits, c'est l'ordre de l'intelligence, où les hommes font preuve d'habileté pour arriver à des sommets que donne la raison bien conduite. Avec la charité, c'est autre chose. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas simplement dans ce qui permet de structurer la matière, ni les hommes, mais de ce qui permet de structurer l'univers. Oui, c'est curieux de percevoir la charité comme la plus grande force cosmique qui soit, et pourtant c'est bien le cas. Pourquoi est-ce que la charité est une force qui structure l'univers ? Pour le comprendre, il faut un petit retour en arrière. Pythagore a impressionné toute la pensée antique à travers sa découverte de la proportion. Pythagore établissait un rapport proportionnel entre le corps, la cité et le cosmos en disant que la cité est au cosmos ce que le corps est à la cité. Et cette proportionnalité permettait de penser l'identité dans la différence. Pascal va plus loin que les Grecs et notamment que Pythagore avec sa loi des proportions, en montrant qu'il est possible de trouver de la proportion, pas simplement entre des choses qui peuvent être comparables, mais entre des choses incomparables. Qu'est-ce qui permet de trouver de la proportion dans la disproportion ? Eh bien, c'est la charité. On s'aperçoit que le petit est petit par rapport au grand, mais il arrive que parfois le petit soit grand par rapport à plus petit que lui. Ainsi, la terre est une goutte d'eau par rapport à l'univers. Mais par rapport à nous, la terre est immense. Une goutte d'eau n'est rien par rapport à la terre. Mais par rapport au monde qui se trouve dans la goutte d'eau, elle est immense. Le petit peut être à la fois grand et petit. Et c'est ce qui fait le paradoxe du petit. Qu'est-ce qui permet de tenir ce paradoxe ? C'est la force de l'amour ou charité. Pourquoi ? Parce que rien ne peut s'opposer à l'amour. À savoir que rien ne peut s'opposer à l'amour. Pourquoi ? Parce que l'amour ne s'oppose à rien. Et comme il ne s'oppose à rien, eh bien, il défait tout ce qui s'oppose à lui. On peut s'opposer à lui, mais lui, ne s'opposant à rien, il détruit toute opposition qu'il peut y avoir contre lui. Ce qui fait qu'il est totalement désarmant. Il est totalement désarmant parce qu'il n'est pas armé et parce qu'il est totalement désarmé. Nous avons affaire là à une puissance proprement inouïe et on comprend qu'elle embrasse tout. D'où l'extraordinaire nouvelle du Christ au niveau cosmique et pas simplement politique, sociale et humain. Oui, l'amour permet de balayer tous les conflits, toutes les contradictions que l'on trouve dans le monde des hommes. Mais l'amour va plus loin que la simple dimension humaine. Il va pour l'humanité de tous les temps, dans tous les espaces et dans tous les lieux. Et c'est ce qui donne ici le sens profond de l'amour. Le sens profond de l'amour, c'est de pouvoir tout réordonner d'une manière proprement inouïe. Que ce soit nous-mêmes, que ce soit les autres, ou bien encore que ce soit le monde autour de nous. J'aime le proverbe qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». La charité, elle commence par soi-même. Il faut être charitable à l'égard de soi-même. Souvent, on ne l'est pas. En se demandant trop, qui s'aime trop ne s'aime pas, qui ne s'aime pas s'aime trop. Et le juste milieu entre trop s'aimer et ne pas assez s'aimer se trouve dans le fait de s'aimer vraiment. Et quand on s'aime vraiment, on n'est pas trop ni trop peu par rapport à soi. On est juste et c'est cette justesse qui donne de l'amour. Cet amour, il nous faut l'avoir à l'égard des petits, des déshérités, de ceux qui vivent malgré tout, malgré leurs difficultés et qui sont des phares pour nous en nous montrant la route. Si eux peuvent vivre, alors tout le monde peut vivre. D'où la justesse qu'il y a à tenir compte de ceux qui sont petits, humbles, les obscurs, les sans grade, comme le dit Flambeau dans L'Aiglon d'Edmond Rostand. Enfin, il y a ce qui sauve, et ce qui sauve, c'est l'indulgence. L'indulgence au bon sens du terme, qui consiste à se souvenir que nous avons été heureux quand nous nous sommes trompés de ne pas avoir été abattus par ceux qui auraient pu se servir des fautes que nous commettons pour l'emporter sur nous et qui ne l'ont pas fait. Il faut être charitable à l'égard du monde et lui laisser une chance pour pouvoir s'en sortir et ainsi se transformer. C'est ce qui fait la force de la charité. La force de la charité, c'est la capacité de sauver le monde en croyant et en faisant croire que tout peut être sauvé, le monde peut être sauvé.
Ce vi fleiem în lume. florile d'albe, că acolo s-a născut, florile d'albe, ce-l aștepta de demult, florile d'albe, și semnul acesta este florile d'albe, afla veți un prunc când este florile d'albe. Florile d'albe, precum spune profeția, florile d'albe, și zace pe fân uscat, florile d'albe, în scutece înfășat, florile d'albe, cei ce stelelor slujau, florile d'albe, te rugăm ca să primești florile d'albe, de la noi darul lumești, florile d'albe. Noi am citit că ne scrie florile d'albe, nouă în astronomie, florile d'albe, ție să ne închinăm, florile d'albe, frumoase daruri să-ți dăm, florile d'albe, azi nașterea ta, Hristoase, florile d'albe, pe Adam din iad îl scoase, florile d'albe.
C'était le cœur des moniales du monastère de Stavropoléos qui se trouve dans le centre de Bucarest. Chers amis, la dernière fois, j'ai eu le plaisir, et je crois que vous avez eu vous aussi ce plaisir, d'écouter le père Jean Gate nous parler de la foi. Aujourd'hui, cher père, je crois que vous avez envie de nous parler de la divino-humanité.
Bonjour Bertrand, bonjour tous chers auditeurs. Oui, dans le prolongement de ce que je partageais la dernière fois concernant la foi, la difficulté de croire en quoi, de croire en qui, de croire en l'incarnation. Dieu se fait homme. Et donc je crois qu'il est important de revenir là-dessus parce que c'est, me semble-t-il, le centre, le cœur de la foi chrétienne, que je sache. Je voudrais préciser, vous le confirmerez, que dans toute l'histoire de l'humanité, toutes civilisations confondues, toutes religions confondues, c'est la seule religion chrétienne qui, dont le référent, hein, celui auquel elle croit, dit de lui-même, et les croyants disent de lui-même qu'il est simultanément totalement Dieu et totalement homme. Il n'y a pas d'équivalent. Et ça, c'est quand même particulier. C'est pour ça que tous les syncrétismes, je veux dire, sont possibles à un certain niveau, tout simplement, voilà, au niveau de certaines transcendances, et que oui, l'amour, mais non, je veux dire, il y a une seule chose qui est absolument de faire l'objet d'aucun syncrétisme, c'est cette question de la divino-humanité du Christ. Difficulté. Ça faisait presque 3 siècles que les chrétiens aient existé et célébré, disons, l'Eucharistie dans une continuité apostolique. Mais dès que les persécutions cessent, n'est-ce pas, avec Constantin, déjà la diversité, la liberté de penser, d'ailleurs, se développe. Et au sein même de la chrétienté, eh bien, il y a plusieurs doctrines qui apparaissent, en particulier, c'est compliqué, on va pas revenir là-dessus, mais en tout cas celle d'Arius, bien connue, qui ne croit pas à la divinité de Jésus, de Christ, mais qui affirme qu'il n'est simplement que homme. C'était très grave, c'était très, très important, parce qu'à ce moment-là, c'était mettre pratiquement en cause toute la foi chrétienne, c'est absolument évident. Et donc, un celui de Nicée, 325, dont nous allons célébrer très précisément cette année le 1700e anniversaire et qui donne lieu déjà à des conférences ici ou là pour revenir là-dessus et pour affirmer, rappeler que c'est véritablement un point commun à toute la chrétienté. Oui, c'est de ce point de vue-là, il n'y a pas à discuter, c'est un point commun à toute la chrétienté. Tout le monde confesse le Christ, Dieu et homme. Mais très honnêtement, la notion de divino-humanité est peu utilisée dans notre culture en français. D'ailleurs, elle n'est pas utilisée par les orthodoxes non plus. Ce sont les théologiens qui développent ce double mot, en quelque sorte, ce binôme divino-humanité, pour résumer que oui, ce qui est affirmé dans le credo, qu'en effet, le Christ est Dieu et homme, et donc ça a généré ce terme de divino-humanité. Qu'est-ce que ça signifie, la divino-humanité? Ça veut dire que Dieu... Alors là, c'est la portée théologique, la portée pour nous. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que Dieu se fait totalement homme, il est descendu dans notre condition humaine, il devient totalement homme, il revêt toute la nature humaine, sauf évidemment le péché, parce que le péché, c'est la séparation avec Dieu. Il est Dieu, donc il ne peut pas être séparé contre lui-même. Le démon est séparé contre lui-même, mais pas Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas prendre le péché. Mais par contre, il en prend toutes les conséquences. Et toutes les conséquences, ce sont celles, c'est notre situation dramatique, et en particulier la mort, et c'est la raison pour laquelle lui-même va aller jusqu'à la mort pour nous rencontrer. Pour nous rencontrer. Et quelle est la portée de cette incarnation? Eh bien là, évidemment, je reprends la formule bien connue d'Irénée de Lyon, et reprise par d'autres par la suite, n'est-ce pas? Dieu, et Athanase, Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. On pourrait dire Dieu est devenu homme pour que l'homme redevienne Dieu. Je préfère peut-être le conjuguer dans ce sens-là. Attention, quand on dit Dieu devenir Dieu, surtout pas comme des dieux, surtout pas justement ce dans quoi nous sommes tombés, n'est-ce pas, la Genèse, vous serez comme des dieux. Et c'est le péché, c'est l'orgueil par excellence, parce que chacun de nous est un petit Dieu parce qu'il est orgueilleux, et c'est lui, c'est cela qui nous éloigne de Dieu, véritablement. Donc il ne s'agit pas de devenir ces petits dieux, mais de revenir dans la lumière de la divine, dans laquelle nous sommes issus, dans laquelle nous étions, si je puis dire, je crois, à l'état, en quelque sorte, paradisiaque, n'est-ce pas, mais dont nous sommes, par notre désobéissance, par notre enorgueillissement, dont nous sommes exclus. Comme dit Saint Basile le Grand dans la liturgie, par la faute d'un seul péché, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, n'est-ce pas? Et alors, point important par rapport justement à l'Occident, nous sommes héritiers, c'est une question anthropologique, nous ne sommes pas tous responsables, chacun individuellement, de cette désobéissance, mais nous en subissons tous les conséquences. Et c'est pourquoi Dieu, dans son idée, parce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il envoie son Fils unique afin que quiconque croit en lui, n'est-ce pas, ait la vie éternelle. Et là, il y a un processus de réconciliation. La venue de Dieu dans le monde, l'incarnation, est une réconciliation. Et je crois que c'est le point le plus important pour notre foi, et d'avoir confiance. Pour avoir confiance, dont on a parlé la dernière fois, croire que Dieu est bon, Dieu est venu par miséricorde, Dieu aime l'homme, il aime le monde, il aime l'homme, et qu'il est venu réconcilier. Nous nous sommes coupés, nous avons divorcé, et il vient nous réconcilier, sans condition. Si ce n'est que tout simplement, il faut accepter et croire en lui, qu'il est véritablement celui qui a été envoyé. Saint Paul, dit, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Corinthiens, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. J'aurai l'impudence, comme je le fais depuis un certain temps, d'ajouter que qu'avant de parler de la résurrection, il faut réaffirmer cette divino-humanité, parce que si ce n'est pas Dieu homme qui ressuscite, alors avec la résurrection, je veux dire, d'autres peuvent jouer, n'est-ce pas, les réincarnations, ou la recherche d'une immortalité, comme le fait actuellement la science moderne. Mais rappelons que Dieu lui-même a permis la mort, parce que pour que nous ne restions pas dans un état infernal, parce que être coupé de lui, c'est infernal, n'est-ce pas ? Et donc, c'est par amour, oui, presque par amour qu'il a permis en quelque sorte que nous restions pas dans cet état, mais qu'il vient nous réconcilier. Mais cette réconciliation suppose que nous acceptions. Et alors il nous tend la main. Là, je m'inspire un peu d'une icône qui est dite l'icône de la résurrection ou l'icône de la descente aux enfers, que j'aime beaucoup. Enfin, pour moi, je peux pas dire c'est l'icône des icônes. L'icône des icônes, c'est la Sainte Face, c'est le Christ. Mais c'est lorsqu'il tend les mains à Adam et Ève, qui sont en bas.
Libérer des enfers,
mais ce qui est important, alors il a vaincu d'ailleurs l'enfer, et la croix qui apparaît sur cette icône, tu vois, qui est brisée, la tension, la verticalité, l'horizontalité sont brisées, mais ce qui est important, c'est qu'il tend les mains, et Adam et Ève, pour prendre la main du Christ, doivent lever les leurs. Et, et c'est ça qui est important. Comme un enfant, je reviens sur l'image de l'enfant. Lorsqu'un enfant est à côté de son père ou de sa mère dans la rue, n'est-ce pas, et qu'il lui tend la main, et l'enfant doit lever sa main pour attraper celle de ses parents. Eh bien, nous sommes exactement dans cette même situation. Le Christ est venu, il nous tend la main, il vient nous réconcilier, à nous de tendre la nôtre en toute confiance, encore une fois, comme les enfants, et à ce moment-là, nous serons relevés. Relève-toi, nous dit-il, relève-toi, dit-il, aux paralytiques, aux paralysés, à tous ceux qui sont déjà morts, j'ai dit, lève-toi, c'est ressuscite. Redevient un homme, et dans cette perspective, c'est dans cette perspective que nous pouvons dire que nous allons retrouver en quelque sorte le chemin de notre divinisation, de notre sanctification. Je crois que c'est ça le bon terme, devenir Dieu, c'est à nous ressanctifier et reconstituer notre ressemblance.
Est-ce que vous croyez qu'on peut dire de la divino-humanité quelle est la plénitude ?
Ben oui, la plénitude pour qui? La plénitude en Christ, c'est la plénitude.
C'est-à-dire que il y a tout.
Bien sûr.
Dieu, l'homme, Dieu, tout est ensemble, tout est récapitulé. Il n'y a pas l'un supérieur à l'autre, il y a tout.
Évidemment. Par définition, et ce qui est important, oui, bien évidemment, j'oserais ici peut-être évoquer, même si c'est un sujet délicat, c'est que certaines pensées théologiques auraient dit que le but de la création, c'était l'incarnation de toute manière.
Oui.
Hein? Le but, dans les desseins de Dieu, la création, le but de la création, c'était l'incarnation, c'est-à-dire, mais que la désobéissance a dévié et a déplacé en quelque sorte le sens de l'incarnation, de la venue de Dieu dans l'humanité, pour rétablir en quelque sorte la déviance. Hein?
Oui. Merci beaucoup, cher Père. Merci
à vous, Bertrand.
Cet enseignement.
Merci.
Et pour finir, à nouveau, le cœur des moniales du monastère de Stavropoléos, situé dans le centre de Bucarest.
Bonne fête de Pâques sur RCF.
Dans le murmure d'une foule immense, un homme s'avance, fatigué, une croix de bois sur ses épaules, le péché du monde a pardonné. Il ne peut plus marcher, épuisé. Trop de souffrance à supporter. Mais dans sa passion, une délivrance. La mort est vaincue, Christ ressuscité.
Des paroles d'amertume, l'abandon de ses frères. Le rideau du temple s'est déchiré. Déjà les 3 heures ont sonné. De son côté, transpercé, de l'eau jaillit, source de
Maintenant, retrouvons Bruno Fuma pour la matinale du dimanche.